Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un collectif d'étudiants en conservatoire remonté contre la réintégration prochaine d'un professeur accusé de harcèlement moral et sexiste, interview avec l'association Avenir pour annoncer le Rennes Street Food Festival, il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage pour écouter l'alerte du syndicat de la magistrature et puis recommandations d'ateliers aux archives municipales. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. L'annonce de la réintégration au conservatoire de Rennes d'un professeur accusé de harcèlement moral et sexiste met des étudiants en colère. Alors, il faut revenir en arrière. En 2018 et 2019, ce sont d'abord deux élèves qui accusent ce professeur de théâtre d'agression sexuelle, puis une dizaine de témoignages qui décrivent des faits de harcèlement moral et sexiste, le tout relayé par le quotidien Libération en septembre 2020. Les accusations, elles vont de la remarque sexiste à l'agression sexuelle en passant par des comportements violents physiquement et verbalement. Dès l'automne 2019, une enquête judiciaire a été ouverte sans retenir le motif d'agression sexuelle. Elle finira classée sans suite. C'est une enquête administrative de la ville qui a abouti finalement à un blâme avant que le professeur ne soit suspendu de ses fonctions en janvier 2022. Le professeur fait alors appel devant le tribunal administratif qui demande au printemps 2022 à la ville de le réintégrer dans les équipes et de lui verser 1500 euros pour les frais de justice engagés. Le dernier épisode, c'était l'appel de la décision par la ville de Rennes, appel infructueux puisque la ville a annoncé la nouvelle du retour de ce professeur la semaine dernière, un retour prévu pour le mois de septembre. Le motif invoqué par le tribunal administratif pour justifier sa décision, c'est que le professeur a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits. Chez les étudiants du conservatoire de Rennes, amertume et colère, à en lire le communiqué publié ce lundi 19 juin par le collectif Le Gros Rouge qui fâche, c'est son nom. Nous refusons de travailler avec un professeur qui harcèle, humilie, sexualise et violente ses élèves. Ce sont les mots d'un des étudiants lors d'une réunion organisée avec le conservatoire et la ville de Rennes la semaine dernière. Ville de Rennes qui, on le comprend, arrive au bout de la procédure qu'elle pouvait lancer. Les élèves dénoncent les insuffisances de la justice au niveau national donc, mais accusent aussi la municipalité et le conservatoire de ne pas avoir pris la situation au sérieux. Ils sont soutenus dans leur démarche par HF Bretagne, association féministe pour l'égalité des genres dans les arts et la culture en Bretagne. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure de l'interview du jour. Khalid Bati et Hassan Batil, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Avenir et qui organise un Rennes Street Food Festival. Ça se passe le week-end prochain, dimanche 25 juin, toute la journée sous la Halle du Triangle, c'est ça pour le lieu ?
Exactement.
C'est une association qui a été créée quand, Avenir ? On raconte un peu son histoire ?
Donc l'association Avenir, c'est une association qui existe depuis maintenant 10 ans, même plus de 10 ans, mais qui était aussi l'émanation de d'autres associations et aussi d'autres expériences qui étaient notamment sur le quartier du Blône, avec des expériences un peu diverses sur la question de la citoyenneté, des thèmes comme la culture, etc., mais aussi un peu la spiritualité.
Puisque c'est cette association, on le dit maintenant, qui pilote le centre Philippe Grenier qui est installé au Blône, qui est décrit comme un centre culturel islamique. Moi, je ne le savais pas, mais il y a une des mosquées rennaises qui est implantée en fait, sur le quartier du Blône.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la singularité de l'association Avenir, mais il y a deux volets en fait. Il y a le volet, comme elle dit Khalid, spirituel, mais qui concerne des individus. Mais pour nous, la finalité de la spiritualité, c'est concrètement d'être utile sur le terrain. Donc il y a un autre volet qui est ouvert et qui agit vis-à-vis de l'ensemble des concitoyens du quartier, de toute confession, quoi, en dehors de la confession. Quoi.
Il y a combien de personnes dans l'association aujourd'hui qui font vivre ce projet-là ?
Voilà, je pense qu'on est, on a une moyenne, une centaine de bénévoles en tout cas, qui interviennent sur plusieurs commissions et qui sont très investis et mobilisés sur toutes les activités du centre en fait.
Alors moi, la religion, c'est pas trop mon truc, mais j'ai lu que dans ce centre culturel islamique Philippe Grenier, il y avait quand même une particularité, c'est que les hommes et les femmes pris dans la même pièce. On parle d'un lieu qui a ouvert assez récemment, hein, c'était en 2019. C'est une petite révolution ou ça se fait déjà ailleurs d'avoir ce fonctionnement-là ?
Ça se fait ailleurs, ça s'est fait il y a longtemps, et ça se fera encore longtemps. Si on prend même les lieux de culte comme par exemple à la Mecque, c'est une vision, une compréhension qui est erronée. Et donc oui, c'est un centre islamique, mais c'est un centre islamique qui fonctionne sur les règles de l'islam. Il y a aussi derrière une volonté du centre sur la question de la mixité, de la place de la femme, et que pour nous il est important, justement c'est pas par hasard, même dans le street food on parle de la mère, il est important, et on ne limite pas à la mère justement, mais que la femme est la moitié de la société et elle fait vivre l'autre moitié. Donc on n'imagine pas une situation où la femme serait discriminée ou elle ne pourrait pas avoir sa place. Donc oui, on tend vers...
Une vision progressiste quand même, on pourrait le dire comme ça.
Si on veut, on la définit comme on veut, mais pour nous c'est plus qu'une idée, c'est une conviction.
Au-delà de l'éducation spirituelle, il y a aussi, vous l'avez dit, tout un volet culturel et social. On va s'arrêter là-dessus. Il y a notamment, pour commencer, une épicerie solidaire. Elle fonctionne comment, cette épicerie solidaire ?
Alors, c'est un projet qui va vraiment dans un cheminement et autour d'un questionnement sur notre manière de consommer de manière générale, mais aussi sur des questions d'équité, des questions de justice, etc. On s'est aussi interrogé sur comment on pouvait être cohérent avec des valeurs, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler du mieux manger. Et on s'est dit, mais dans notre manière de consommer aujourd'hui, est-ce que notre consommation, elle est juste pour le producteur, pour l'agriculteur ? Donc on s'est un peu interrogé. Donc on a pu rencontrer un ancien habitant du quartier qui est aujourd'hui maraîcher bio. Et donc ça a été une belle rencontre, parce que c'est ça aussi, avant tout, c'est cette question de lien, de rencontre avec les gens. Et donc on a plutôt démarré dans un premier temps sous une forme un peu d'AMAP. Donc c'est toujours un projet qu'on a, avec toutes les difficultés que ça peut avoir, parce qu'effectivement c'est de changer aussi nos propres habitudes.
Les AMAP, ce sont des associations de maintien à l'agriculture paysanne. Là où c'est différent, c'est qu'une partie de la distribution alimentaire souvent repose sur un peu les déchets, on va dire, de l'industrie et puis de la grande distribution. Là, vous faites un pas de côté, quoi.
Voilà, mais c'est une vraie question, en fait, là, que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, il y a eu des distributions de repas aussi pendant le Covid. Hein. Ça a été vraiment l'occasion de voir aussi que... De manière générale, en France, les quartiers populaires ont été très présents dans la solidarité, notamment dans la distribution de repas. Et ça fait partie des réflexions qu'on a, c'est-à-dire de comment aller au-delà du confinement pour soutenir des habitants, mais sur quelque chose qui soit aussi de qualité. Donc il y a des projets qui sont en cours, qui sont en pleine réflexion. Ça demande du temps parce qu'on est des bénévoles. Donc ça c'est important, donc c'est une dimension qu'il faut prendre en compte, donc ça fait partie vraiment d'une réflexion globale, c'est ce que disait Hassan, quand on parle d'utilité, c'est comment on peut être utile aux citoyens, et voilà, c'est un point en tout cas qui nous intéresse. Quoi.
Ce projet d'épicerie solidaire, il est un peu en lien avec cet événement qu'on va annoncer, le Rennes Street Food Festival, puisqu'il y est question de sujets d'alimentation. Sur les actions culturelles que vous menez, j'ai vu qu'il y avait des cours d'arabe qui étaient proposés, et puis aussi des rencontres autour de sujets de société. Si je ne dis pas de bêtises, Khalid, vous animez aussi un pôle multimédia, si on reste dans des questions de culture, qui est un peu en suspens sur cette activité-là, qui va bientôt reprendre, vous l'espérez ?
Qui va reprendre, effectivement, parce qu'on a eu un petit décalage des eaux, donc qui nous a obligés à le fermer temporairement. C'est un thème qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi des réseaux sociaux, des écrans, des différents canaux de diffusion aussi, qui aujourd'hui sont quand même très présents. Et c'est comment on essaye de composer avec, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est mal ou bien, mais c'est comment aujourd'hui on peut réfléchir à donner aussi une lecture sur l'utilisation des écrans, l'utilisation aussi des médias, sur aussi comment communiquer, comment aussi argumenter lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on est d'accord. Et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. C'est aussi de communiquer sur les projets du centre, donc voilà, d'utiliser les outils. Donc c'est un projet là qu'on aimerait redémarrer en septembre.
Sous forme notamment d'ateliers de captation et de montage vidéo à destination de quel public ? Plutôt le jeune public ?
Tout le monde.
Tout le monde.
Vraiment tout le monde. Ça peut être autant des plus jeunes que des plus âgés. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est surtout un support à la discussion sur des questions parfois d'actualité, de société. Aujourd'hui, la télé n'est plus, la radio n'est plus l'unique médias, je veux dire de diffusion d'informations, c'est aussi comment on accompagne des jeunes parfois qui sont devant un écran, qui peuvent avoir tout type d'informations sans filtre, Et c'est aussi peut-être d'accompagner en tout cas à une lecture.
Une mission d'éducation à l'information. On arrive donc à l'événement qui nous intéresse, le Rennes Street Food Festival. Ça se passe dimanche prochain, dimanche 25 juin, toute la journée sous la halle du Triangle. Et alors, on ne parle pas de la street food en mode food truck, même s'il y a quand même une histoire de food truck, mais on revient vraiment aux cuisines de rue qui sont traditionnellement présentes sous plein de formes à travers le monde. Comment est née l'idée de cet événement vraiment? Ça s'est inspiré de pratiques en fait à l'échelle du quartier du Blône, c'est ça?
Alors on a eu la particularité avec Hassan, c'est d'être voisins. Moi j'habitais au 15e étage, lui il habitait au deuxième étage.
Il faut être précis.
Voilà, c'est important. Et c'est vrai qu'on a vécu quelque chose quand même d'assez, pour nous, fort et unique. C'était toutes les formes de solidarité et de partage qui se faisaient aussi dans notre quartier. C'est-à-dire que c'était assez fréquent que Hassan venait chez moi, j'allais chez lui, il y avait les plats qui venaient du voisin portugais, du breton qui venait nous partager, donc il y avait une espèce de solidarité de l'assiette, du sel, de tout ce qu'on peut imaginer, et c'est quelque chose qui nous a vraiment nous marqué.
C'est ce qu'on a, on a vécu, mais c'est vrai que quand vous parlez de centre islamique, c'est vrai que dès que vous dites islamique, les gens cataloguent, on enferme les gens. Quand on parle de quartier, on enferme encore dans le quartier. Nous, on parle d'un cheminement et d'un vécu. Et ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans le quartier du Blône, qui était la Zup Sud, d'un point de vue humain, pour nous, c'est très riche. Mmh. Et justement, il y avait cette richesse par la solidarité, par le lien, par le partage, la solidarité et la diversité. On a goûté au plat des autres, mais il n'y avait pas le français de souche, il n'y avait pas le marocain, il n'y avait pas le turc, il n'y avait pas le polonais. On était une famille. On a vécu ça, et ça nous a nourris. Et on est convaincu que ça existe encore actuellement dans le quartier, et c'est comment le partager simplement.
Et c'est une idée que vous cherchez à cultiver avec cet événement que vous organisez là pour une première édition, et celles qui vont être mises en lumière lors de cette journée, ce sont celles qui culturellement cuisinent et ne se retrouvent pas à la tête de restaurants étoilés, je parle des maires. Je trouve que c'est un constat à la fois un peu douloureux parce que c'est une charge au quotidien, pour beaucoup de maires c'est pas un choix. En même temps, on peut en effet faire des choses, et c'est ce que vous proposez, pour mettre en lumière de véritables compétences. Vous êtes d'accord là-dessus?
On est tout à fait d'accord. Après justement, c'est intéressant que vous parliez des maires, parce que même certains l'ont mal pris. Et justement, on est toujours dans l'enfermement, dans des cases. Et dès qu'on a parlé de maires, vu nos convictions, entre parenthèses, tout de suite, c'est qu'on voudrait limiter la femme à la cuisine. Et ça nous attriste parce que c'est justement, nous, la mère, c'est quelque chose d'universel. On a tous eu des mères et on voudrait juste les remettre à leur place et de leur donner toute leur importance, parce que les premiers goûts, l'amour, la vie, elle est transmise par la mère, quoi qu'on en pense et quelle conviction qu'on ait. Et dire ça, ce n'est pas limiter la femme. Mais au contraire, c'est l'honorer. Et puis après, chacun a ses références culturelles, culinaires, mais c'est encore la mère, en règle générale, qui l'a transmis. Et c'est quelque chose d'important. La mère est un être humain, la femme même, par sa relation intuitive à l'invisible, elle a transmis à ses enfants, mais aussi au père, des choses fondamentales qui permettent aux humains de vivre avec du lien et savoir qui ils sont. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant, mais loin de nous l'idée de limiter la femme à la cuisine. Mais au contraire, c'est l'honorer.
De l'enfermer dans sa cuisine, justement. Quels seront les pays représentés? Il y aura combien de stands à découvrir dimanche prochain?
Alors actuellement, on est à 17 stands. On a encore des demandes. Voilà, mais en Amérique latine, on a la Colombie. On a le Suriname, la Guyane, enfin la région. On a la République dominicaine. On a en Afrique les pays du Maghreb, on a le Mayotte en région, on a les Comores, on a le Mali, le Sénégal, on a notre région bien sûr, la Bretagne.
Et un pays d'honneur, un invité d'honneur pour cette édition.
Et alors effectivement l'Afghanistan, voilà, parce que voilà, on a pu se rendre compte qu'il y avait une forte communauté afghane qu'on connaissait pas en fait et qu'on connaît un peu dans ce que disait Hassan à travers. Un regard quand même assez triste et assez compliqué. Donc l'idée, c'était aussi de les connaître et de les honorer, en tout cas, par ce festival. Donc ils vont être présents. L'Inde, le Sri Lanka, je crois, et le Cambodge, le Suriname. Enfin voilà, il y a pas mal de pays et on est très contents de les accueillir.
Ce sont essentiellement des femmes cuisinières du quartier qui seront présentes, ou vous avez peut-être élargi quand même
C'est surtout le Rennes, en fait, le bassin rennais. Donc voilà.
à parler de street food. Là, alors pour ceux qui ont eu la chance de voyager ou de venir d'ailleurs, on a vite des souvenirs qui arrivent. J'ai dans la tête les tacos mexicains, des empanadas argentines, le soto ayam indonésien ou encore la soupe au saumon finlandaise, jusqu'à la galette saucisse bretonne, évidemment, dans notre quotidien. Est-ce que je peux vous laisser chacun me partager un plat de street food dont vous raffolez?
Ouais, il y en a plein. Moi, si je prends le Maroc, moi, il y a un plat que mes enfants n'apprécient pas. Non, sur les trois, il y en a quand même un qu'ils aiment bien. C'est par exemple les escargots bouillis dans de l'eau avec des épices, des herbes, etc. J'en raffole, mais c'est mon enfance. Mais tous ces plats-là, ils ont une singularité ou une particularité. C'est leur simplicité, mais aussi la proximité entre ceux qui le consomment. On ne mange pas dans un street food comme on mange dans un restaurant où on a chacun son espace, on a son ticket.
Où c'est long.
Où c'est long et on est loin des autres. C'est ce qui nous intéresse, c'est cette proximité, cette simplicité. Et c'est l'esprit de l'association, c'est comment par la simplicité créer du lien et rapprocher les gens simplement.
Et vous, Ralid?
Bon, je serais tenté de parler de plats marocains, mais il l'a déjà fait à ça, donc on va aller sur d'autres plats. Mais non, il y a le biryani de poulet qui est fait par... plusieurs pays, l'Inde, l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan fait un plat comme ça qui est très bon. Et voilà, c'est ce que disait Hassan, cette proximité, cette simplicité. Et aussi, il y a quelque chose de très presque égalitaire en fait. C'est-à-dire que dans des stands de street food, on peut voir toutes les classes sociales s'asseoir au même niveau et de la même manière et de manger ce plat avec les mains. Voilà.
En tout cas, quand on sort de France, parce qu'en France, c'est quand même devenu quelque chose d'un peu tendance, notamment les food trucks.
Non. Allez au Stade Rennais, à l'entrée, il y a la galette saucisse, il y a les frites.
Celle-ci, elle est très populaire. C'est vrai. Je pense aux food trucks qui se sont lancés sur des plats un peu chics ces dernières années. Dimanche, on va bien manger, on l'a compris. Autour des stands, vous proposez aussi des ateliers pour parler de sujets de société, de bien manger et puis de sujets un peu environnementaux autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça aura lieu toute la journée?
On est en train de finaliser la programmation, là il est temps, mais effectivement ça ne sera pas sur toute la journée parce qu'il y a aussi une dimension culturelle. C'est aussi de connaître à travers les plats, mais aussi à travers la musique, à travers des danses. On sait qu'on a déjà des interventions. Mais il y aura aussi des petits amphores sur des petits débats sur le mieux manger. Mais en même temps, c'est des questions de manière générale, parce qu'on se pose la question quand on parle du mieux manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a une approche un peu élitiste. Voilà, et ça peut être aussi une façon de se distinguer. Et donc, on est assez vigilant là-dessus. C'est vraiment de ne pas opposer les choses, c'est-à-dire que... On parle parfois des fast-food, etc. On n'est pas en train de dire que c'est mal ou bien, mais c'est comment réfléchir à notre manière de consommer de manière générale et d'être un peu plus responsable en tout cas.
Pour plus d'infos et pour retrouver la programmation de cet événement, il y a le site internet rennesstreetfoodfestival.com. Et avant de terminer, on le dit, en fait, cet événement, il arrive un petit peu en amont d'un gros projet pour vous que vous allez financer grâce au budget participatif édition 2022. A priori, à la rentrée, il y a justement un food truck, on en parlait, mais un food truck solidaire qui va arriver sur les routes du Blône. Ça va être quoi, votre secteur d'action, votre champ d'action?
On ne l'a pas limité qu'au Blône, hein, il pourrait être même plus loin. C'est à défiler, mais c'est toujours dans le même état d'esprit. La nourriture, ce n'est pas juste une matière qu'on met dans un estomac, c'est des relations entre des humains. Donc on espère que ce food truck va nous permettre justement d'aller au-delà du quartier, à la rencontre des habitants du quartier.
C'est assez ouvert, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le festival du street food lui-même, ce n'est pas un événement unique, c'est-à-dire qui s'inscrit aussi dans une réflexion qui date depuis des années. Et le food truck, il sera aussi dans cet élan-là, c'est-à-dire que les familles là, qui vont cuisiner, les gens qui vont cuisiner, ça sera aussi un outil, ça sera aussi un moyen pour eux de partager aussi leur vécu, leur talent. C'est-à-dire ce que disait Hassan, c'est qu'un plat, derrière un plat, il y a souvent une histoire. Et donc c'est aussi comment on peut raconter une histoire, comment on peut se connaître aussi à travers une histoire. Et on voit bien que quand on a partagé un plat avec quelqu'un, c'est une forme d'intimité qu'on partage. Et c'est plus la même chose. Quand on a mangé avec quelqu'un, c'est un outil en fait de créer du lien entre les gens, de se rencontrer, de s'entreconnaître. Et ça nous tient à cœur. Donc les formes, elles vont être multiples. ça à définir. Elles vont sûrement même évoluer avec le temps. Et on veut que ce soit vraiment aussi un food truck qui peut être aussi utilisé, parce que ça faisait partie du projet aussi initial, pour les maraudes, notamment, parce qu'il y avait des maraudes qui avaient été organisées par les jeunes de, la, de, la, de l'association.
Le food truck solidaire de l'association Avenir à découvrir, on l'espère, à partir de la rentrée prochaine. Je vous représente tous les deux, Khalid Bati et Hassan Batil. Vous êtes membres de cette association qui organise le Rennes Street Food Festival. Ça se passe dimanche 25 juin, toute la journée de 10h à
20h.
À 20h sous la halle du Triangle. Pour plus d'infos, il y a ce site internet rennesstreetfoodfestival.com. Il y a aussi le site internet du centre-philippe-grenier.org et vous êtes présent sur les réseaux sociaux. L'entrée est libre, on ne l'a pas dit, c'est important. Merci beaucoup.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
C'est possible.
On voudrait vraiment remercier chaleureusement tous les commerçants aussi du quartier qui nous soutiennent en fait à chaque édition. Et financièrement, en tout cas, qui sont vraiment drôlement investis pour pouvoir soutenir cet événement, quoi. Donc, on voudrait vraiment les remercier. Ça prouve aussi toutes les formes de solidarité qu'il y a dans ce quartier.
Et remercier aussi, bien sûr, Canal B de nous avoir invités.
Mais je vous en prie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Inside the Old Eye Dying par PJ Harvey, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. C'est un single qui est sorti le 7 juin chez Partisan Records, un single qui donne son nom au prochain album de PJ Harvey qui est attendu pour le début du mois de juillet. Ce sera le 10e disque de la musicienne et poétesse britannique. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr. On passe à une rediffusion. « Rediffusion d'un reportage qui a été diffusé dans cette émission d'info locale le 5 juin dernier. On prend la direction du 5e étage du tribunal judiciaire de Rennes pour écouter deux juges, membres du syndicat de la magistrature, qui alertent sur le caractère dégradé du service public de la justice dans le département à travers une motion qui a été adoptée à l'unanimité par les magistrats du tribunal judiciaire de Rennes. Leur demande, c'est que les postes soient pourvus dans les plus brefs délais, également que l'augmentation de la population soit prise en considération dans les moyens alloués. Sinon, eh bien, des audiences seront supprimées et des services fermés.
Donc là, on est au tribunal pour enfants, qui a 6 bureaux de magistrats, 6 bureaux de greffiers. Pour décrire aux gens, donc effectivement, on est sur une ambiance un peu marine, avec voilà, des murs qui sont bleus et des décorations qui évoquent, on va dire, le littoral breton. Le fait qu'on accueille des enfants, il y a un soin qui est apporté à l'accueil, de faire attention effectivement qu'ils puissent avoir des coloriages, effectivement une salle de jeu, alors, avec des jeux un peu anciens quand même. Hein, mais normalement, on essaye de rénover, de tourner un peu, mais c'est vrai qu'effectivement, on est sur, à l'image de la juridiction, un stock qui est un peu dégradé. Alors bonjour, je m'appelle Étienne Kubica, je suis juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes et je suis par ailleurs délégué du syndicat de la magistrature.
Je m'appelle Ségolène Marquet, je suis juge au tribunal judiciaire de Rennes, affecté au service des affaires familiales et membre également du syndicat de la magistrature.
Alors un magistrat, il y en a deux catégories, les magistrats du siège et du parquet. Les magistrats du siège sont ceux qui prennent des décisions au terme de jugement après avoir auditionné et écouté les parties. Les magistrats du parquet sont en charge de l'action publique. Donc contrairement aux magistrats du siège, eux, il leur revient effectivement d'orienter les procédures pour qu'elles soient jugées. Alors le syndicat de la magistrature est une des organisations professionnelles de magistrats. Ce n'est pas l'organisation majoritaire. L'organisation majoritaire est l'Union syndicale des magistrats qui correspond à peu près aux deux tiers du corps. L'autre deux tiers du corps, effectivement, lors des élections professionnelles, vote pour le syndicat de la magistrature. À la différence de l'USM qui se positionne comme étant apolitique, le syndicat de la magistrature est considéré comme une organisation syndicale de gauche.
Avant d'arriver à la motion là, dont on va parler, une motion d'alerte sur l'état de la justice ici en Ille-et-Vilaine, dire qu'il y a déjà un précédent et peut-être vous demander si vous avez toujours, vous, connu finalement le département en difficulté quand on parle de justice.
Alors sur les précédents, les motions sont régulièrement adoptées en Assemblée Générale par les différentes juridictions. Donc là, la dernière motion qui avait été adoptée en Ille-et-Vilaine date de 2021 suite à un mouvement d'ampleur après la publication d'une tribune dans laquelle l'ensemble du corps a dénoncé le fait d'être en permanence sous le chronomètre pour rendre des décisions. En Ille-et-Vilaine, je pense que, voilà, moi je suis arrivée récemment, donc je ne peux pas parler d'une dégradation. Après, je peux faire une comparaison par rapport aux juridictions du nord de la France qui sont à peu près dans la même situation.
La particularité en Ille-et-Vilaine et en Bretagne de manière générale, c'est que les affectations de magistrats ont très peu évolué au cours des 40 dernières années. Sauf que la population dans l'ouest de la France, et notamment en Bretagne, c'est considérablement accru depuis 30 ou 40 ans. Hein. Je pense qu'effectivement, tous les Rennais voient que effectivement, la ville a quand même cru. C'est la même chose à Nantes, alors qui fait partie de la cour d'appel de Rennes, parce que la cartographie juridiciaire correspond à la Bretagne historique. Et effectivement, ça se traduit par le fait qu'effectivement, le nombre de magistrats, le nombre d'agents de greffe est notamment insuffisant pour répondre aux besoins de la population.
Ça veut dire que le nombre de magistrats n'est pas proportionnel à la population, c'est pas réfléchi
non,
comme ça.
C'est pas réfléchi, effectivement, les affectations de poste ne sont pas liées effectivement aux affectations de population.
On est actuellement donc à Rennes, une juridiction composée de 50 magistrats pour 924 946 habitants, un ratio de 5,4 juges pour 100 000 habitants, alors que les autres tribunaux judiciaires en France métropolitaine, le ratio est de 8,79 pour 100 000 habitants. Et alors, si on parle du Conseil de l'Europe, en Europe, c'est 22,2 juges pour 100 000 habitants.
Donc là, on se retrouve avec une motion votée le 23 mai dernier. L'un des éléments principaux, c'est qu'il y a des postes non pourvus. C'est sans doute l'urgence. C'est dans quelle proportion et puis de quel poste on parle ?
Alors, en l'état, effectivement, je vous parle effectivement dans l'attente effectivement des affectations complémentaires de postes qui pourront être réalisées jusqu'au 8 juin. Si effectivement la situation reste en l'état, il y aura des postes vacants au tribunal pour enfants et dans d'autres fonctions, notamment l'instruction et sur le service général du tribunal.
Le ministère va tenir compte, en fait, va dire que nous sommes au complet, mais sans tenir compte des éventuels temps partiels qui parfois s'imposent, en fait, pour diverses raisons, aux magistrats. Donc, ils vont considérer que nous sommes complets, selon des chiffres qui se basent quand même sur un ratio déjà insuffisant, alors même qu'on est dans certains services, certains collègues, parfois à 50% d'un temps plein. Et ça, ils n'en tiennent absolument pas compte et ils considèrent qu'on est à plein et ça doit reposer sur les autres. Et donc forcément dégrader les délais. Enfin, ça a des répercussions sur tous les services.
On peut prendre juste un exemple. Hein. On en parlait auparavant, le service de l'instruction. Le service de l'instruction à Rennes, c'est 7 magistrats. 4 au droit commun, 3 à la juridiction interrégionale pour la criminalité organisée. Donc c'est-à-dire que Rennes est compétent pour toute la criminalité organisée d'une grande partie de l'ouest de la France. Rennes est également compétent pour toutes les infractions commises par des militaires de l'ouest de la France, notamment par exemple sur des questions de violence policière, d'ailleurs que les faits sont reprochés à des gendarmes. Les juges d'instruction rennais traitent en droit commun 230 dossiers. Le seuil d'alerte qui a été élaboré par la chancellerie est un seuil d'alerte de 71 dossiers. C'est-à-dire que, déjà de fait, les juges d'instruction font presque le métier de deux magistrats. Et ça se traduit, pour les justiciables, hein, pour les personnes qui sont mises en cause ou pour les personnes qui sont victimes, par des délais de traitement extrêmement longs, extrêmement importants, qui leur donnent effectivement l'impression que la justice n'est pas rendue.
C'est un moment clé qui se joue au moment de l'instruction. Est-ce qu'on peut définir ce terme ?
L'instruction, c'est la forme procédurale qui concerne les crimes et les délits complexes. La loi impose qu'effectivement, en présence de crimes, il y ait une ouverture d'une information judiciaire et que l'enquête soit confiée à un magistrat indépendant, le juge d'instruction.
Non mais c'est vrai, le problème c'est qu'à chaque fois qu'on agit ou qu'on va sur le parvis pour aller et tout, on sort un peu de notre guidon là, et puis du coup on se côtoie, du coup on sourit, tout c'est bien sur les photos, on sourit et tout, mais c'est pas du tout le reflet.
On rigole, mais c'est pas drôle.
Peut-être pour rester un peu dans le domaine que vous connaissez bien, sur le service du tribunal pour enfants, il y a donc 6 juges des enfants dont vous faites partie avec un poste bientôt vacant. Et je lis, le nombre de dossiers moyens par cabinet, c'est plus de 500 mesures d'assistance éducative. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette justice des enfants qui a un impact direct sur ce public qui est fragile ?
Alors, on parle de 500 dossiers en assistance éducative en moyenne, c'est un peu plus. Ça ne veut pas dire 500 enfants. En l'état, par exemple, dans mon cabinet, il y a 1300 enfants qui font l'objet de mesures d'assistance éducative. Les mesures d'assistance éducative se regroupent en deux grandes parties. Les mesures de placement, c'est-à-dire lorsque la collectivité prend en charge l'éducation et le relèvement éducatif de mineurs, lorsque les parents, effectivement, du fait de leur fragilité, du fait également de carences effectives ou du fait d'actes de maltraitance, ne sont pas en capacité de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. L'autre volet, ce sont les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert qui s'appellent des MEP sur le département d'Ille-et-Vilaine et qui consistent dans un soutien éducatif à partir du domicile des parents et qui ont pour objet de donner des conseils, des recommandations pour les aider à remédier à une situation de danger.
Ça veut dire quoi que les juges des enfants sont donc dans la situation de ne pas pouvoir convoquer toutes les situations qu'ils nécessiteraient ? Ça veut dire qu'il y a des placements qui n'ont pas lieu, des dossiers qui sont du coup mis en bas de pile
C'est-à-dire que normalement, le principe, quand effectivement on est face à des audiences qui concernent vraiment la vie privée, qui concernent effectivement, je pense, ce qu'il y a de plus précieux, hein. Je pense qu'il faut se mettre à la place de tout à chacun de savoir qu'après une audience, potentiellement, nos enfants ne dormiront plus avec nous, ne seront plus également dans le même lieu, que dans ces audiences avec des enjeux extrêmement importants, on peut avoir effectivement des débats, soit qui sont extrêmement différés, soit des débats qui n'ont pas lieu parce que les décisions sont prises sans audience.
Cette motion-là, et puis ce communiqué que vous adressez notamment aux médias pour alerter, ça permet un peu de découvrir tous les services de la justice, du service de l'instruction, la cité, au service d'application des peines, en passant par le service du tribunal pour enfants, mais aussi le service du contentieux de la protection, le service civil, le service correctionnel et le service du juge des libertés et de la détention. Pour continuer à dégager des éléments importants, ce sous-dimensionnement au niveau des équipes a un impact en fait sur les délais de convocation, sur les délais de traitement, tout est plus long, mais dans des proportions qui peuvent surprendre le public. Quand on parle de plusieurs années dans la criminalité organisée, ça questionne vraiment sur le sens qu'on donne à la peine.
Oui, qu'on donne à la peine, l'importance qu'on accorde à ces affaires qui sont complexes et dont les enjeux sont importants, puisque quel sens donner donc à un jugement plus de 7 ans après que le dossier soit en état d'être jugé. C'est même pas après les faits, c'est quand le dossier est en état d'être jugé. Sur la justice du quotidien, quel sens donner à une comparution devant le tribunal plus de 16 mois après les faits pour une victime et pour un auteur? Et ça peut également être le cas si la situation venait à nouveau à se dégrader pour les affaires familiales, quand il y a encore peu de temps, on était à un délai d'un an pour passer devant le juge aux affaires familiales et décider de la résidence d'un enfant.
Il y a quand même des ponts entre le champ de la justice et le champ de la santé, aujourd'hui aussi avec celui de l'éducation. Je voulais vous demander si, comme dans le secteur de la santé ou l'éducation, il pouvait y avoir un mal-être du côté des professionnels.
Je pense que la souffrance au travail auquel on est confronté, elle se pose dans des termes assez proches par tous les agents du service public, par les agents effectivement de la fonction publique hospitalière, mais également, pour exemple, pour être en charge de ce contentieux-là, également des professionnels de la protection de l'enfance. Je parle effectivement de difficultés à assurer un cadre respectueux pour les mineurs et les familles. Là, en l'état, en Ille-et-Vilaine, il y a à peu près 300 mesures de placement qui ne sont pas exécutées sur les 3000, c'est-à-dire presque 10% des décisions judiciaires qui ne sont pas exécutées. Il faut se mettre à la place des familles qui se demandent effectivement quel est le sens de cette justice, qui a dit effectivement qu'il y avait une mesure extrêmement grave et qu'il fallait assurer une protection pour l'enfant et dont la protection vient dans un délai plus qu'indéterminé. Pour les professionnels qui sont en charge de mettre une mesure qui n'est pas exécutée, donc qui n'a pas de sens, et également pour le magistrat qui ne peut constater que la vacuité de son office.
Pour bien comprendre, on parle bien de moyens qui manquent, de postes qui ne sont pas comblés et pas de métiers au pluriel qui n'attirent plus les candidats dans votre secteur.
Je pense qu'il faut faire une distinction. C'est vrai que pour le concours de la magistrature, il y a toujours des candidats et il n'y a pas de difficulté de recrutement sur ce point-là. Après, l'une des difficultés, c'est que former un magistrat, ça prend du temps. Et qu'après, entre les annonces et la réalité concrète du terrain, il y a plusieurs années qui vont se dérouler. Pour les professions de greffe, et pour les agents de greffe, on est face à une crise qui est peut-être beaucoup plus importante, qui est plus prégnante. C'est une profession, effectivement, qui exprime un mal-être important. Où est-ce qu'il y a des démissions? Où est-ce qu'il y a beaucoup, effectivement, de volonté, effectivement, de changer d'administration, d'affectation? Parce qu'il y a un manque de reconnaissance des compétences, parce qu'il y a un manque de valorisation, effectivement, de leur tâche, de leur fonction et de leur office, qui est pourtant indispensable.
Une décision d'un magistrat sans un greffier n'est pas une décision judiciaire. Le greffier met en forme et prépare tous les dossiers, prépare également et accompagne la rédaction des jugements, est présent à chaque audience, est souvent le premier interlocuteur des personnes quand elles contactent le tribunal. Et finalement, c'est un peu comme une courroie de transmission dans une juridiction. C'est un rôle essentiel.
Et en termes de matériel, est-ce que vous êtes bien équipé
Le matériel informatique, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qu'on fait des dernières annonces du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti? Le mois dernier, il a annoncé des recrutements de personnel, plus 60% de budget. Quand on a le chiffre comme ça, ça paraît énorme. Il y a quoi derrière ces annonces?
Alors déjà, il faut déjà voir d'où on part. Et on part vraiment de très très bas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une augmentation de 60%, mais comparé aux besoins et comparé à l'état que certains gardes des Sceaux avaient qualifié de clochardisation de la justice, ça donne effectivement peut-être la possibilité de reprendre un peu pied, mais ça ne permet pas effectivement d'assurer pleinement ses missions. D'autre part, sur les 60%, il faut faire une distinction entre les moyens qui vont véritablement être alloués aux tribunaux. Il y a déjà une grande partie de 60% qui vont être affectés à l'administration pénitentiaire, pour la construction de nouvelles places de prison en grande partie. Et sur effectivement le reste de ces 30%, il y a une affectation qui ne correspond pas effectivement à ce qui permettrait de remédier à la demande de justice de nos concitoyens. Avec ce risque que si effectivement il n'y a plus de possibilité de traiter les litiges par un tiers, que les gens trouvent d'autres moyens pour résoudre leurs difficultés. Des fois ça peut être heureux, notamment effectivement lorsqu'on arrive à développer un certain nombre de mesures de médiation ou autre, mais dans d'autres aspects ça peut permettre effectivement la commission de violence ou la commission d'éléments où c'est la loi du plus fort qui règne. Les situations de violence au tribunal pour enfants, ça se déroule assez régulièrement, effectivement, des gens, vu les conditions. Alors déjà, parce que, aussi, il faut préciser, on a des situations qui sont déjà extrêmement stressantes et déjà émotionnellement très difficiles, mais c'est vrai qu'effectivement, le cadre d'accueil, le cadre, effectivement, de prise de décision peut accroître cette nervosité qui est parfaitement entendable à l'égard de personnes dont le sort de leurs enfants est en jeu.
Avec forcément, et ça concerne vraiment tous les contentieux, Une capacité d'écoute qui diminue, puisque forcément, quand on n'est pas assez nombreux et que le stock augmente et que notre capacité de jugement diminue, on a tendance à passer à accorder moins de temps aux gens, moins de temps d'écoute. Donc forcément, ça augmente la frustration que les personnes ressentent face à la justice qui est lente, toutes les critiques qu'on entend régulièrement.
Peut-être terminant en vous demandant comment vous analysez ces choix politiques, puisque ce sont des choix.
Je pense qu'il y a des effets de communication et il y a un effet de priorité effectivement du gouvernement de privilégier, on va dire, une forme de réponse pénale. On voit effectivement par exemple sur les affectations de postes et de moyens récents où la priorité qui a été donnée par la chancellerie a été effectivement de doter les juridictions qui seront amenées à traiter du contentieux pénal pendant les Jeux Olympiques. Plutôt effectivement en région parisienne, effectivement sur les juridictions de la couronne, pour effectivement permettre un traitement rapide des infractions qui peuvent être commises avant et après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Il y a des affectations de poste conséquentes qui ont été accordées. Donc c'est un choix politique.
Thank you.
Café Tacuba et le morceau Aprovechete, extrait de l'album El Objeto Antes Llamado Disco, c'est sorti en 2012, le 7e disque de ce groupe de rock alternatif qui est star au Mexique et qui tire son nom d'un café installé dans la capitale mexicaine. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Je le dis régulièrement, si vous avez un événement ou une action à annoncer, à présenter aux auditeurs, que ce soit avec une association ou autre type de structure, tant que la motivation n'est pas purement lucrative, vous pouvez m'envoyer l'info à l'adresse email lucie@canalb.fr et puis je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici en studio, un reportage sur le terrain ou pour l'annoncer sous forme de recommandation. Et tiens, eh bien, c'est l'heure de la recommandation du jour. Et oui, chaque jour en fin d'émission, je vous donne des conseils d'événements à vivre, de choses à vous mettre dans les oreilles ou de lecture aussi parfois. Là, la recommandation du jour, c'est un atelier. Ça se déroule jeudi 22 juin à partir de 18h aux archives de Rennes. Archives désormais accessibles en métro quand il fonctionne à la station Jules Ferry. Titre de l'atelier, mission conservation. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver les moyens les plus efficaces pour lutter contre les facteurs de dégradation des archives. Vous pourrez pour cela compter sur l'expertise de 3 archivistes infiltrés, je les cite, Adrien Leroux, Olivier Fio et Violaine Tissier Le Nénaon. Un atelier qui est gratuit mais dont la jauge est limitée. Pour plus d'infos, il y a le site internet archives.rennes.fr. Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.